Bon, Luc, tu vas encore blâmer les changements climatiques pour quelque chose, et la chose étant cette fois-ci la tornade de Mascouche.
Oui, évidemment, on peut pas faire porter à une tornade la preuve des changements climatiques. T'sais, des tornades, il y en a eu dans l'histoire du Québec. Une catégorie 2, je pense que non, il n'y en a pas eu.
Attends, Gatineau, c'est une F3, je pense.
Oui, c'est ça, 3. Puis il y avait eu, rappelle-toi, à Notre-Dame-de-Grâce, un parc qui avait été ravagé par une tornade il y a 2 étés aussi. C'est des événements climatiques, c'est ponctuel. Hein. Alors, le verglas, il y en a eu une fois... puis il n'y a pas eu de tempête de verglas à cette importance-là. Il y a de plus en plus de tempêtes de verglas, mais une tempête de verglas comme on en a connu, c'est en quelle année? C'est en 2000?
La tempête de verglas, 98.
99?
Non,
98. 98, OK, bon. Ben, il n'y en a pas eu d'autres. Fait que on peut pas dire parce qu'il y a eu une tornade à maison. Voilà, c'est le début des tornades, il va en avoir de plus en plus. On peut pas dire ça. Mais on peut pas non plus... regarder juste la tornade puis dire bon ben c'est une tornade, une petite tornade. Ouais, bon, en même temps que la tornade, en une semaine à peu près, regardons ce qui s'est passé en une semaine. Bon, la défoliation, c'est-à-dire la perte des feuilles dans 600 000 hectares de feuillus dévorés en Ontario par une chenille, qu'on appelle la chenille spongieuse. 600 000 hectares, tu sais, il y a 10 ans, c'était 50 000 hectares.
Là, Luc, fais le lien pour les gens. C'est quoi le rapport entre cette bibitte-là qui a mangé les feuilles dans une forêt au complet, puis le réchauffement?
Ben, c'est qu'elle croît de plus en plus vers le nord, la chenille.
OK, elle n'était pas ici avant,
non,
à cause de l'hiver.
Elle se développe, puis elle atteint des régions qu'elle n'avait jamais atteint avant, comme là, on en a trouvé à Rivière-du-Loup. Et c'est l'intensité aussi. C'est le nombre de chenilles par arbre qui augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand tu dis 600 000 hectares de défoliation, ben, le parc La Fontaine, c'est 35 hectares. Les plaines d'Abraham, c'est 95 hectares. Fait que 600 000 hectares, on commence à être sérieux, là, de feuilles dévorées. Et on sait qu'elle progresse de plus en plus vers le sud du Québec. Rappelle-toi, il y a 8 jours à peu près, on parlait des canicules aux États-Unis. Les canicules aux États-Unis, pas des petites canicules, là, ça a touché 50 millions de personnes. Ça a frisé les 50 degrés, 46, 48 degrés à Phoenix. 30 degrés la nuit. Pendant 10 jours de suite, là, la canicule a duré. 30 degrés la nuit. Et ça, c'est pas parce que... Puis, c'est les écarts de température. Tu sais, rappelle-toi aussi au printemps, le gel des vignes en France. On n'était pas dans un été, un printemps froid, là. On était dans un printemps, au contraire. Tu sais, ici, on a eu 2 canicules, puis tout à coup, oups, une baisse de température. C'est quoi ces baisses de température-là? Ça monte, ça baisse, etc. C'est déjà arrivé dans le passé, là. Ça monte, ça baisse, c'est déjà arrivé, tu sais. On va pas paniquer là-dessus non plus, mais là, ça le fait de plus en plus. Ça le fait dans de plus en plus de pays en même temps. Et pourquoi? Parce que il y a 2 phénomènes qui ont la même source. Le premier phénomène, c'est la modification du Gulf Stream. Puis le deuxième phénomène, c'est la modification du courant jet. Le courant jet qui régule les températures en Amérique du Nord. Là, tu sais, on le regarde quand on le voit à la carte, quand on regarde la météo, là, ça fait une espèce de bosse qui monte puis qui descend. Puis ce courant-là, son parcours est influencé par la température qui fait en Arctique. Or, cette semaine même, on apprend, il y a 10 jours, on apprenait que à la grande surprise générale, la fonte des glaces en Arctique, c'est 2 fois plus rapide que prévu à cause d'une grande expédition qui a duré plus d'un an et puis des analyses qui ont été faites par satellite aussi. 2 fois plus rapide que prévu avec les scénarios de changement climatique. Alors, puis là, bon, la grêle du Dufresne qui nous a frappé il y a déjà de ça 3-4 ans, mais qui n'est pas finie. La progression rapide de la maladie de Lyme. C'est tout ça, c'était des éléments qui montent sur tout le territoire. Avant la maladie de Lyme, c'était juste les cantons de l'Est. Maintenant, c'est dans l'ensemble du Québec.
Luc, une fois que ça s'est dit, puis c'est pas la première fois qu'on en parle, toi et moi, on est lucides face à ça. Toi, t'es beaucoup plus, disons, t'aimerais voir la classe politique agir avec plus d'urgence. Parfait, ça arrive pas. Là, il va falloir qu'on se résoudre à... Comment je te dirais ça, là? Il va falloir qu'on vive avec l'idée qu'il va falloir s'adapter parce qu'on ne va pas renverser les changements.
Non, c'est ça. On va pas les renverser. Puis, essayons de mettre la table. Puis, je vais te dire comment on va s'y adapter, OK? Mais mettons la table. Là, j'ai parlé de différents phénomènes, là. Mais résumons. On est à 1,2 degré de réchauffement, à peu près. Jusqu'à 1,5 degré, on est dans le tolérable. Tolérable, ça veut dire plus de feu, plus de canicules, plus de tornades, plus d'insectes, augmentation du prix des aliments à cause des gels canicules, des maladies d'arbres. Bon, ça, c'est du tolérable encore. Mais là, c'est 1,5 degré. Si on passe à 2 degrés, là, il se produit deux choses. Il se produit d'abord qu'il y a des phénomènes autodéclencheurs. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, tu ne contrôles plus ton sort. C'est comme quand tu veux faire les séries, mais il faut que l'autre équipe perde pour que toi, tu puisses y, avoir, y aller. C'est plus toi qui contrôles ton sort à partir de 2 degrés parce qu'il se produit des choses dans la nature. Le pergélisol commence à fondre puis libère du méthane, l'acidification des océans, l'augmentation des incendies de forêt. Là, tu ne contrôles plus ton sort et les impacts sont gigantesques d'une part, mais ils ont aussi des impacts sociaux gigantesques. Et ça, ce 2 degrés-là, on était sûr que ça arriverait en 2100, mais là, maintenant, on commence à penser que ça va arriver autour de 2050. Fait qu'il faut qu'on vive avec. Comment on fait pour vivre avec? Ben, il faut qu'on produise le plus possible nos produits maraîchers. Alors, tu avais été avec Mme Brochu tout à l'heure, elle te disait, oui, on a réduit 30 % le coût pour les serres, c'est déjà beaucoup, mais la production en serre, il suffit pas juste de baisser le prix de l'électricité, là. Il faut avoir de la main-d'œuvre, il faut avoir de l'expertise. Il y a plusieurs séries qui ont fait faillite dans le passé au Québec. C'est difficile d'avoir une production parce que les coûts de main-d'œuvre coûtent très cher au Québec. Donc, comment on fait pour s'adapter? Comment on va en profondeur dans ce dossier-là? Planter des arbres dans les villes et les planter de différentes espèces parce qu'il y a toutes sortes de maladies d'arbres qui vont arriver. Abaisser nos besoins dans tous les domaines parce que la production va être plus chère. Il va y avoir des pénuries de main-d'œuvre. On l'entend, pénurie de main-d'œuvre, on va en avoir de plus en plus parce qu'il y a des pays qui vont être touchés plus que nous. Protéger les boisés, protéger les rives. T'habites dans une ville, t'habites à Granby, t'habites à Saint-Jérôme, t'habites à Montréal. Il y a un projet qui va se faire sur le bord de l'eau. Fonce à la municipalité puis dire faites pas ça. Il faut avoir accès à l'eau. Il faut que partout au Québec, on ait accès à l'eau. Nous autres, au Québec, on avait de l'eau partout. On a construit des chalets sur le bord de tous les lacs. On a construit les rives, c'est l'endroit où on veut habiter. Fait que tout le monde s'habite. Non, faut pas faire ça. Faut qu'on ait accès à l'eau. Et c'est toutes ces petites mesures-là, une par une, où tu dis, bon, on va peut-être passer à travers, au moins pendant les 50 prochaines années, mais faut pas qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Il faut qu'on se le rappelle. Et là, je vais revenir sur l'entrevue que tu as eue avec Mme Brochu. Mme Brochu, elle cache quelque chose dans son jeu. Ben, c'est une entente qu'elle a avec M. Legault pour essayer de faire disparaître le surplus d'Hydro-Québec. On avait un surplus gigantesque quand il est arrivé au pouvoir. Et là, M. Legault, lui, il veut le faire fondre, ce surplus-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan de développement du territoire. Dans son plan de développement du territoire, le développement de l'éolienne, le développement de l'hydroélectricité a une grande place. Et là, on accepte des gens qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur notre territoire pour faire fondre ce surplus-là. Et entre autres, les fermes de Bitcoin. En Chine, ils viennent d'interdire le Bitcoin. Ils veulent plus de gens qui font du Bitcoin, ça coûte...
Oui, parce que c'est un peu compliqué, là, mais quand tu as du Bitcoin, là, ça bouffe beaucoup d'énergie.
Hey, ça te suce l'énergie, ça, monsieur, là, comme une Transam suçait du gaz. Puis Mme Brochu vient à ton micro, oui, tout va bien. Non, tout va pas bien. Pourquoi est-ce qu'on accepte le Bitcoin? Si on accepte des centres de données au Québec, d'accord, pas n'importe quel centre de données comme Pornhub, on va pas accepter tout le monde parce qu'on a de l'énergie pas chère puis on veut la vendre, puis si on s'en débarrasse, on va être capable de produire plus. Non, c'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est de faire le mieux avec ce qu'on a.
Luc, t'es en feu, je dois t'arrêter, mais... Écoute,
comme le territoire.
Dernière chronique demain.
Ouais, là, écoute, je vais pas me reposer, je vais m'arriver au printemps, à l'automne, puis... Plus de colère, plus de chicane.
Non, je pense que c'est pas comme toi, ça.
Bon, on verra.
Si tu es garant de l'avenir, tu vas revenir avec le feu sacré.
OK, salut.
À demain, 17h22. Ciao.